être des disciples, dit le Seigneur. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde.
Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc.
En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit : Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient.
Acclamons la parole de Dieu.
Frères et sœurs, tout d'abord, merci de m'accueillir. C'est une grande joie pour moi de célébrer cette messe dans cette cathédrale. Je suis un petit prêtre de campagne, peut-être Sarry-Pogny, à la vallée de la Moivre. Donc voilà, première, en tout cas pour moi, première joie de cette journée. Mais nous savons que la joie, il y a une joie plus grande, il y a une joie qui nous rassemble, la joie de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous propose dans cette petite homilie de voir trois aspects. Tout d'abord, quelle est cette joie, quelle est la réalité de cette ascension de notre Seigneur. Ensuite, les raisons, pourquoi est-ce qu'il fallait que le Christ vive cette ascension. Et enfin, dans un dernier temps, de nous interroger, et nous, qu'est-ce que cela peut changer, qu'est-ce que cela change pour nous dans notre vie quotidienne, dans notre vie d'aujourd'hui, de demain, de la semaine prochaine. Tout d'abord, c'est quoi l'ascension ? L'ascension, est-ce que c'est cette image un peu... Parfois, dans l'Église, on peut souffrir d'images un petit peu enfantines. On croit que c'est pour les enfants, c'est des belles histoires. Est-ce que c'est Jésus qui était avec ses disciples ? Il s'envole, il va sur un petit nuage qu'on ne voit plus. Un petit nuage où il retrouve un monsieur barbu, il y a quelques barbus, mais un monsieur barbu qui serait en l'occurrence Dieu le Père. Puis voilà, c'est un petit peu, il y avait, permettez-moi cette touche d'humour, ça me fait penser au village dans les nuages. C'était ma génération, donc il y avait des gens qui vivaient dans les nuages. Bien sûr que non. Tout simplement, puisque nous sommes dans une nature humaine, pour comprendre les choses spirituelles, nous avons besoin d'image humaine. Alors oui, l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ est représentée d'une façon conforme à notre nature. Il reviendra comme il est parti, mais en réalité, on ne sait pas très bien comment il est parti. On ne sait pas très bien non plus comment est-ce qu'il reviendra. En réalité, cette ascension physique de Jésus est le symbole d'une ascension dont les apôtres, les disciples et chacun d'entre nous ne voyons pas le terme. Et cela demeure incompréhensible pour chacun d'entre nous. tout cas, je le pense. Sinon, si quelqu'un a une lumière particulière, qu'il n'hésite pas à m'éclairer de cette manière. Le Christ, il parcourt tous les cieux, il dépasse le cœur des anges et il ne s'arrête qu'à la droite de Dieu. Bien sûr, cette situation à la droite de Dieu, c'est une image, c'est seulement figuratif, puisque d'ailleurs les anges sont incorporels. Dieu lui-même étant un pur esprit, n'a rien de corporel. Simplement, cette montée à la droite de Dieu, du Christ, représente, symbolise les honneurs, la majesté, le triomphe qui lui est accordé dans le sanctuaire de la divinité. Il est à la droite de Dieu et il est assis. Pourquoi est-ce que Jésus est assis? Assis, ça peut être l'image de celui qui ne fait rien. C'est-à-dire qu'il y a une image du le père de famille ou la mère de famille ou tel assis à se faire servir. Or, nous le savons que quand on est assis, on peut servir par une autre royauté, et en l'occurrence, le fait que Jésus soit assis n'empêche pas qu'il exerce à tout moment, au moment présent, la puissance que le Père lui communique pour régir, sanctifier, juger le monde. Donc il n'est pas assis à ne rien faire, cela signifie qu'il est entré, il y a quelque chose de stable dans la position assise, il est entré pour toujours en possession du repos éternel que lui ont mérité ses combats. Il est à la droite du Père, dans un au-delà inaccessible, mais qui est un éternel présent. Il est assis, mais en réalité, il est et demeure la seule source de salut, de grâce, de vie et de bénédiction pour chacun d'entre nous. Il n'est ni absent, ni inactif. Voilà la réalité de cette ascension que, bien sûr, nous avons du mal à comprendre, à saisir et à définir. Mais alors, pourquoi cette exaltation? Pourquoi est-ce qu'il fallait que le Christ, est-ce que le Christ n'aurait pas pu rester vivre au milieu de nous? Ça serait d'ailleurs, on pourrait s'imaginer, ça serait une erreur, parce qu'il serait, localisé, ça serait un petit peu plus dur. Ce matin, au moment présent, il y a à peu près dans le monde 400 000 messes. Il y a 400 000 messes. Ça serait un petit peu plus difficile si le Christ était resté localisé dans cette vie terrestre. Mais il y a une autre convenance, la convenance qu'il est le propre Fils de Dieu. Il est la gloire et dans sa nature, d'une certaine manière. La transfiguration dont nous avons pu méditer l'événement n'est pas accidentelle. Ce qui est accidentel, c'est lorsqu'il n'est pas transfiguré. Avant la résurrection, sa gloire est cachée, mais au matin de la résurrection, dans son humanité glorieuse, dans son corps glorieux et impassible, il est dans sa véritable nature, en tout cas la représentation qu'il en donne est sa véritable nature, mais il reste, quand bien même le Christ était ressuscité, il restait alors dans un règne corruptible où règne la mort. Nous savons, nos chrétiens, nous vivons en espérance du Christ ressuscité, mais nous le savons bien, nous devrons passer par la mort définitive terrestre, la mort qui sera l'achèvement de notre vie terrestre, mais bien sûr toutes les petites morts de nos souffrances aujourd'hui. Et je confie à votre prière Benjamin Mouarot, je pense qu'il y en a certains qui le connaissaient, il est décédé il y a quelques jours en allant aux obsèques de son grand-père d'un accident de voiture. Et pourtant, Benjamin, il vivait du Christ ressuscité. Il avait fêté la résurrection du Christ le jour de Pâques. Il vivait en espérance, mais il a dû passer par cette épreuve ultime de la mort. Donc on comprend bien que notre vie terrestre ne peut pas être une fin en soi. Nous aspirons à quelque chose de définitif, à quelque chose de stable. Et de la même manière, le Christ, il fallait que le Christ trouve un lieu qui répondit dignement à sa nouvelle condition,
un lieu d'où sa gloire pourrait rayonner, sa gloire et sa puissance pourrait rayonner pleinement sur chacun d'entre nous, et notamment ce matin dans les 400 000 endroits où la messe est célébrée. Première raison de cette exaltation, c'est qu'il est le propre Fils de Dieu. Deuxième raison, c'est également la récompense des humiliations qu'il a subies, de la même manière qu'un, je crois qu'il y a quelques militaires parmi nous, de la même manière qu'un prince récompense un capitaine ayant remporté la victoire, eh bien le Père récompense le Fils pour la victoire qu'il a remportée sur la mort et sur le péché pour chacun d'entre nous. Il y a un lien entre l'ascension du Christ et son abaissement, comme il y aura un lien entre, nous l'espérons également, notre propre ascension et les épreuves de notre vie chrétienne, de notre vie tout court. On peut penser et prier particulièrement ce matin pour les chrétiens persécutés dans le monde. Ils vivent par le Christ, à cause du Christ et dans le Christ, l'humiliation et les humiliations. Eh bien, puissent-ils également vivre cette exaltation comme chacun d'entre nous? Il y a un détail assez marquant, c'est que le Christ s'élève, non pas d'un lieu anodin, mais du sommet de la même montagne où il a commencé sa passion, au nom des Oliviers. Alors, qu'en est-il pour nous? J'ai déjà évoqué à la fin de ce deuxième point, nous voyons qu'il y a un lien très fort entre l'humiliation, l'ascension, l'humiliation du Christ, sa résurrection, et notre propre vie. L'ascension du Christ fonde l'espérance du corps, de son corps mystique, que nous sommes, chacun que nous sommes. Mais par notre baptême, il y a quelque chose d'important, c'est que il pourrait y avoir la... Nous pourrions avoir la tentation, d'ailleurs des philosophes ont reproché cela aux chrétiens, de dire, ben oui, mais vous les chrétiens, vous acceptez la souffrance parce que vous avez parce qu'on vous promet quelque chose pour après, quelque chose qui d'ailleurs pourrait être une promesse vaine. Or, c'est une erreur de penser que la vie avec Dieu est pour après la mort. Par notre baptême, nous n'avons pas reçu seulement l'assurance de rentrer un jour, demain, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans la gloire éternelle. Nous avons déjà pénétré dans les hauteurs des cieux avec le Christ Jésus par tous les sacrements que nous avons déjà pu recevoir dans notre vie. Tout à l'heure, nous chanterons l'Alléluia. L'Alléluia, le chant de la montée. L'Alléluia, le chant de la libération. L'Alléluia, le chant de la victoire, de l'amour sur la mort. Cet Alléluia est bien sûr le chant de la montée du Christ. Et d'abord, l'Alléluia, nous chantons, nous le rechantons le matin de Pâques. Nous chantons la montée du Christ, le Seigneur, la résurrection. Mais cet Alléluia est également celui de chacun d'entre nous. À chaque fois que nous remportons une victoire sur le péché, nous pouvons faire notre cet Alléluia. Et notamment, nous savons la victoire sur le péché. Par nos propres forces, nous n'y arrivons pas. Cette victoire, c'est celle de Christ. Et quand nos communions, chacune de nos communions, est une victoire de l'amour sur le péché, de la vie sur la mort. Saint Paul peut dire ainsi dans cette deuxième lecture que celui qui descend et celui qui monte, celui, chacun d'entre nous qui allons communier, nous sommes aussi ceux qui ont péché. Alors, en ce jour de fête, acceptons les pauvretés de nos vies, que ce soit des pauvretés, les pauvretés de notre cœur, les pauvretés de notre humanité, les pauvretés financières, sociales ou relationnelles, aujourd'hui en communion, en acceptant les pauvretés de nos vies, nous sommes vainqueurs de ces pauvretés. Permettez-moi une dernière prière en ce petit mot de commentaire de l'Évangile, prière qui n'est pas de moi, qui est de Don Marmont, qui était le père abbé d'un monastère. Aujourd'hui, Seigneur, en ce jour de l'Ascension, accordez-nous de nous détacher de toutes les choses de la terre qui sont fugitives pour ne rechercher que les vrais biens qui demeurent. Puissions-nous être par le cœur où nous savons que votre sainte humanité est corporellement élevée. Puissions-nous y être ce matin par le cœur. Puissions-nous y demeurer à travers les tribulations et de nos, les épreuves de nos vies, puissions-nous y demeurer pour les jours de notre vie et pour l'éternité.